Édition.
Radio Classique, les spécialistes.
7h40 sur l'antenne de Radio Classique, Jean Castex, Premier ministre, hier soir sur TF1.
Un ennemi a déclaré la guerre à la France. Cet ennemi, il est nommément désigné et connu, il s'appelle l'islamisme politique et radical. Et cet ennemi va nous trouver sur son chemin. On sait qu'il a des complices à l'étranger, on sait hélas aussi qu'il a des ramifications et des complices en France. C'est lui notre cible.
Voilà pour les propos du Premier ministre. Gilles Kepel, bonjour, merci de votre fidélité à Radio Classique. Tout le monde sait que vous êtes professeur à Normales Sup. Voici les propos donc du Premier ministre tenus hier soir. Dans le contexte de ce matin, et nous rendons hommage à Samuel Paty, il va être extrêmement compliqué pour les professeurs d'histoire notamment de trouver un chemin qui ne soit pas un chemin de débat, autrement ça risque de dégénérer, mais un chemin de rappel peut-être de ce que c'est que la République. Et est-ce qu'il faut y ajouter des propos type les propos de Jean Castex?
Alors, effectivement, dans les établissements scolaires, ça va être un très grand enjeu parce que après les vacances, il y a ce traumatisme, mais on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est une évidence parce que l'école est fondée là-dessus. L'école dispense des savoirs, mais dispense aussi un certain nombre de valeurs. Ce qui est très important, et comme l'a fait, je crois, Emmanuel Macron dans son interview à Al Jazeera, que j'ai écouté intégralement en arabe, c'était de bien choisir ses termes et de rappeler que la France n'a rien à voir avec une opposition quelconque à l'islam comme religion ou aux musulmans comme foi, ça c'est absolument clair, et nous avons de très nombreux compatriotes qui confessent cette foi, oui, qui sont musulmans évidemment, et mais que en revanche, il existe une entité qui souhaite détruire culturellement le vivre ensemble dans la République, construire une séparation effective en se basant sur une interprétation extrémiste de la foi ou du dogme, et que c'est ça qui crée l'atmosphère djihadiste dans laquelle ensuite des tueurs comme monsieur Anzorov qui a décapité l'enseignant Samuel Paty, ou c'est encore à vérifier le tueur de Nice, et en tout cas aussi celui qui a essayé de tuer des personnes rue Nicolas Appert, l'ancien siège de Charlie Hebdo, monsieur Zahir Mahmoud, ensuite passe à l'action, si vous voulez. Or, si on ne fait rien, si on considère que au fond tout va bien façon l'éponge, évidemment, à quoi on s'expose, c'est que ce phénomène recommence. Alors, systématiquement.
Nous sommes en direct avec Gilles Kepel. Gilles, vous comprenez bien que la complexité de cette interprétation, effectivement explicative de l'intervention d'Al Jazeera, c'est qu'elle fait écho au discours de la Sorbonne, avec cette phrase qui a été très mal prise dans les pays arabes ou un certain nombre de pays musulmans, c'est « nous continuerons les caricatures ». Il est évident que dans la rhétorique du président de la République, ce « nous » s'adressait à la communauté française, j'allais dire musulman compris. Mais simplement, on a plusieurs publics quand on s'adresse évidemment à la télévision et aux réseaux sociaux. Et ce « nous » qui s'adressait à une communauté, il a été très mal pris dans les pays musulmans, au Maroc, au Pakistan, en Malaisie, etc., etc. Parce qu'au fond, un certain nombre de dirigeants ont considéré que le chef de l'État était un peu le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, quoi.
Oui, alors ça, vous avez raison, mais ça a été, je pense, abondamment développé dans l'interview à Al Jazeera, en expliquant qu'il ne s'agissait pas du tout de ça, que il y avait une liberté d'expression en France, que garantie par la Constitution, qu'un certain nombre de dirigeants qui donnaient des leçons avaient eux-mêmes des dizaines de milliers de prisonniers politiques pour délit d'opinion. Je rappelle qu'il y a à peu près 50 000 prisonniers politiques en Turquie aujourd'hui. Et donc, je crois que ça, c'est une chose qui est assez claire. Alors, que ensuite, il faut bien inscrire ça, Guillaume, dans la géopolitique du Moyen-Orient aujourd'hui. vous avez un dirigeant qui est assez isolé, qui est Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Ça n'a pas marché, son intervention en Libye. En Azerbaïdjan et au Haut-Karabakh, c'est extrêmement compliqué dans ses relations avec Poutine. Son économie s'effondre, sa popularité est en baisse et il est à la recherche de boucs émissaires et pour booster sa popularité. Alors, quand on entonne le thème de l'islamophobie, entre guillemets, et qu'on accuse d'autres personnes d'attaquer le prophète, évidemment, on mobilise sur l'Internet, et il ne faut pas quand même non plus être exagéré l'importance de la mobilisation. Moi, j'ai un peu regardé de quoi il s'agit. Ce sont les réseaux frères musulmans dans la plupart des pays où ils sont organisés. Alors, ceci, bien sûr, à partir du moment où on brûle la photo d'Emmanuel Macron en effigie, qu'on les marche dessus, etc., ça fait du buzz. Mais si vous regardez ce matin la prise de position du ministre des Affaires étrangères des Émirats, Anouar Gargache, il vient de faire une interview à Die Welt, qui soutient la position française, et il explique justement que cette opération est très largement soutenue et montée par les réseaux erdoganistes, pour assurer leur emprise sur le monde musulman aujourd'hui.
Nous étions en direct avec Gilles Kepel. Merci de ces précisions qui sont importantes dans le contexte de ce qui va se passer ce matin, c'est-à-dire des explications ô combien nécessaires aux enfants pour la réouverture de l'école. Nous allons passer par les États-Unis et revenir à ces cérémonies, enfin pas ces cérémonies, mais ce temps fort de ce matin, avec le journal imprévisible dans un instant. Voici dans une seconde Emmanuel Faux.
Guillaume Durand sur Radio Classique.
Emmanuel, bonjour. Dans l'ensemble, on ne peut pas réexpliquer totalement le système américain qui est extrêmement compliqué, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut mettre le focus sur ce qu'on appelle les swing states. Quels sont-ils cette année ?
Alors, je vous dis d'abord, Guillaume, un mot des sondages nationaux, parce que ça donne quand même une idée du rapport de force entre les deux camps. Si on prend la moyenne des enquêtes sur lesquelles s'appuie la presse américaine, l'écart actuel, hein, ce matin, entre Joe Biden et Donald Trump est en moyenne de 8,4% en faveur du candidat démocrate. Il a été de plus de 12 points cet été, donc ça s'est resserré. Mais 8 points, c'est quand même très confortable pour Joe Biden. Il y a même un institut qui donne 19 points d'avance aux démocrates. Mais là, c'est plus une élection, c'est un tsunami. Et en tout cas, il faut le noter, aucun sondage national ne place Donald Trump en tête. Alors j'en viens aux fameux swing states, les états charnières qui vont faire la différence puisqu'on comptabilise les résultats état par état. Il y en a 10 qu'il va falloir regarder de près. Il s'agit de l'Iowa et du Michigan au nord qui penchent vers les républicains, de l'Arizona et de la Géorgie au sud qui penchent vers les démocrates. Il y a bien sûr la Floride, état toujours très disputé et qui avait donné lieu, vous en souvenez, il y a 20 ans, à un recomptage mythique à suspense entre George Bush et le candidat démocrate Al Gore. À surveiller aussi la Caroline du Nord, l'Ohio et le Wisconsin, un état sinistré de la ceinture industrielle qu'avait conquis Donald Trump il y a 4 ans et qu'il pourrait reperdre cette fois-ci, ce qui serait un signal.
Et puis il y a des états surprises qui s'invitent dans la course.
Oui, alors d'abord un grand état qui a toujours voté républicain depuis Ronald Reagan en 1980 et qui pourrait voter démocrate cette fois, c'est le Texas. En raison d'une évolution démographique récente ces dernières années, qui a vu la population hispanique devenir aussi nombreuse que l'électorat blanc, ce qui devrait favoriser Joe Biden. Et puis il y a un État qui pourrait jouer le rôle inattendu de baromètre, c'est la Pennsylvanie. Si cet État que Donald Trump avait remporté en 2016 tombe dans l'escarcelle démocrate, nous disent plusieurs analystes, eh bien compte tenu de la structure de son électorat, alors Donald Trump n'aura plus que 2% de chances d'obtenir une majorité de grands électeurs et donc d'être réélu. Ce qui veut dire, en renversant la proposition, que si Joe Biden reprend la Pennsylvanie aux républicains la nuit prochaine, eh bien sa victoire est assurée à 98%. On note en tout cas que c'est là, en Pennsylvanie, que Joe Biden a labouré le terrain et qu'il a fait campagne jusqu'au dernier moment.
Voilà, les dernières heures de campagne seront marquées par le Covid, pardonne-moi Emmanuel, mais nous sommes légèrement en retard, donc nous reparlerons de ça ultérieurement. C'est important de vous retrouver, Emmanuel, évidemment, tous les matins sur l'antenne de Radio Classique. 7h49, voici le journal.